Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quasiment 20h sur CNews, dans un instant c'est face à Rio Folle, mais avant cela le point sur l'information avec Isabelle Puyboulot.
La mobilisation de mardi s'annonce massive et certains routiers pourraient se mettre en grève dès ce soir 22h. Des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles pourraient avoir lieu demain matin dans les Hauts-de-France et en région parisienne, tout comme des opérations escargot aux abords des grandes métropoles. La colère ne redescend pas en Grèce. Près de 12 000 personnes ont manifesté devant le Parlement d'Athènes pour la quatrième fois, alors que le chef de gare mis en cause dans la catastrophe ferroviaire de mardi soir était auditionné devant un juge d'instruction. Des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants qui ne croient pas à une erreur humaine et dénoncent un gouvernement assassin. Et puis un mot de Formule 1, Max Verstappen inaugure la saison en beauté. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Bahreïn devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez. Fernando Alonso complète le podium pour sa première course avec Aston Martin. Mauvais démarrage en revanche pour Charles Leclerc, contraint d'abandonner en raison d'un problème mécanique.
À la une de face à Rio Folle ce dimanche, Emmanuel Macron comprend-il les Français? Après les gilets jaunes, la question se pose une nouvelle fois alors qu'une majorité de citoyens refusent la réforme des retraites et sont prêts à mettre le pays à l'arrêt. Pourquoi ce jusque-boutisme du chef de l'État? Entend-il la colère de son peuple? On en parle dans un instant. À la une également, ils sont politiques, artistes, journalistes, prônent le pas de vague, ont un discours policé, prêchent la bonne parole, égare à ceux qui tentent de sortir des rangs, la morale les sanctionnera. Vous l'avez compris, l'édito d'Yvan Rio Folle sera sur ce camp du bien, tromperie ou non. Élément de réponse dans cette émission. Enfin, vous recevez, Yvan, ce dimanche, Pierre Chaillot, statisticien, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, 3 ans, quasiment jour pour jour après le premier confinement. L'heure de faire un premier bilan. Voilà le programme de Face à Rio Folle. Cher Yvan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien, très bien.
Gabriel Cluzel, ravi de vous retrouver.
Bonsoir, Yvette.
On va commencer avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron comprend-il les Français? Le Figaro, Yvan, a dévoilé lundi l'intention d'Emmanuel Macron de réformer les institutions après avoir réformé les retraites. Comment vous jugez cette annonce?
Je me suis arrêté à cette annonce parce qu'elle est très révélatrice dans le fond de la crise de la politique, je dirais presque de la crise de régime, et même révélatrice de la fin d'une époque, c'est-à-dire une époque qui est maintenant totalement déconnectée de la vie des gens. Et effectivement, on peut très bien... Je comprends Macron quand il veut réformer les institutions et démocratiser davantage la démocratie. Elle pourrait naturellement être davantage démocratisée, c'est-à-dire en y injectant davantage de participation, de référendums, de proportionnels, que sais-je encore. Mais ce n'est pas la priorité. Et la priorité n'est même pas d'ailleurs les retraites. Enfin, certes, les retraites sont une priorité pour Emmanuel Macron parce qu'il veut y imprimer sa marque de président réformateur. Il n'a pas réformé grand-chose depuis qu'il a été élu et même réélu. Il est également poussé par les marchés financiers afin de montrer qu'il cherche à gérer la France du mieux possible afin d'avoir des taux d'intérêt au plus bas. Ça a été révélé par Alain Menck qui a craché le morceau très récemment sur une radio. Donc on peut comprendre ceci, mais ce ne sont pas les priorités des Français. Et d'ailleurs, je trouve que les syndicats jouent un jeu un peu trouble en faisant croire que la retraite elle-même serait prioritaire. Non, les priorités des Français, ce sont leur appauvrissement, c'est la paupérisation de la population, c'est l'inflation colossale, sur les biens d'alimentation. C'est une inflation à 2 chiffres maintenant qui dépasserait largement les prévisions qui avaient été annoncées par Bruno Le Maire, qui annonçait que des inflations officielles à 6 ou 7%, je ne sais plus où on en est. C'est un sentiment de dépossession, c'est un sentiment d'insécurité, c'est un sentiment de crise civilisationnelle, c'est un sentiment de perdition de la part de beaucoup de gens qui se sentent oubliés précisément de ces dirigeants. Et donc, il est navrant de voir qu'en effet, Emmanuel Macron ne comprend rien, visiblement, à la grande détresse de son peuple. Encore mardi, par exemple, je l'ai entendu s'impliquer pour vanter la vaccination des cinquièmes contre le papillomavirus. Mais attendez, qu'est-ce que vient faire un président de la République pour dire aux élèves de cinquièmes qu'ils doivent se vacciner contre le papillomavirus, sinon de perpétuer encore une fois sa politique sanitaire, sa politique hygiéniste, de montrer qu'il entend ne pas perdre la face sur l'efficacité des vaccins, lui qui s'était tant impliqué sur les vaccins anti-Covid. On y reviendra tout à l'heure avec mon invité, où l'on voit que ces vaccins anti-Covid ne sont pas aussi mirobolants qu'il l'avait été dit, qu'il avait été présenté. Donc on voit bien qu'il est à côté de la plaque, en tout cas sur ces sujets-là, qu'il cherche à dépolitiser les grands débats, dans le fond, avec des politiques de petits gestes. J'avais déjà fait un édito là-dessus, je n'y reviens pas. Et quand il feint la proximité en allant, par exemple, passer 13 heures, ce qui est une performance au Salon de l'agriculture, il y va pour dire « je ne sens pas la colère, je sens une inquiétude ». C'est très intéressant ce mot « je ne sens pas la colère », cette phrase « je ne sens pas la colère », car c'est très précisément cette phrase-là qu'il avait dite également 6 mois avant que les gilets jaunes ne déboulent sur les Champs-Élysées. Il avait fait un tour de France et il avait dit « je ne sens pas la colère ». Et la colère était venue, évidemment, 6 mois plus tard avec les conséquences que l'on sait. Donc, je ne veux pas faire une théorie de cet aveuglement-là, mais si les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que si le déni produit la révolte, ça peut annoncer le pire. Alors, est-ce que la révolte sera symbolisée mardi par ce mardi noir, ce que l'on annonce comme étant un mardi noir? Ça, je n'en sais rien parce que, encore une fois, là, du coup, j'ai un doute sur la mobilisation, pour les raisons que je vous ai dites, sur la seule retraite, car il me semble que la retraite n'est pas du tout le sujet qui passionne le plus les Français, même si c'est un sujet, naturellement, qui révèle l'incapacité des pouvoirs publics à comprendre, naturellement, la difficulté à vivre des Français. Mais je trouve que l'OPA qui est faite par le progressisme et les syndicats, très singulièrement, sur cette révolte organisée, est une OPA qui éjecte toute une partie de l'autre population, puisque le Rassemblement national est indésirable dans ses grands défilés, alors que le Rassemblement national, malgré tout, représente cette part d'une France qui, justement, ne se reconnaît plus dans ce pouvoir politique ni dans ce pouvoir syndical. Donc je ne suis pas sûr que ce soit effectivement les syndicats qui vont réussir à mobiliser la France, mais en tout cas la France, en effet, est maintenant sur les starting blocks, si je puis dire, et elle est prête, bien sûr, à faire comprendre à l'État que l'État doit descendre le plus urgemment de son nuage et de comprendre comment vivent les gens. Or, je ne suis pas sûr que ce message-là soit entendu, en tout cas de la part d'Emmanuel Macron.
Gabriel Cluzel, on dit souvent c'est un président jupitérien, mais à force d'être haut, très haut, finalement, il n'a plus de contact avec les Français, c'est ça qu'il faut comprendre?
Moi, je ne sais pas s'il cherche à comprendre les Français, très honnêtement. Je pense qu'il cherche à les contenir. Il me semble assez clair que Emmanuel Macron se sent à l'étroit dans son costume de président de la République. Et on voit bien qu'il n'est jamais plus au fait de sa forme que quand, par exemple, il s'adresse à l'Europe. C'est important pour lui de représenter l'Europe. Mais la France, c'est un peu les bouseux. Vous voyez, vous souvenez de cette chanson, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Bah, c'est un petit peu, c'est plus le Loir-et-Cher, c'est la France. La France, c'est un pays qui n'est pas à la hauteur de ce Jupiter dont vous parlez. Moi, j'ai été très frappée de sa visite au salon d'agriculture. Il s'adressait au petit matin, c'était à la France des travailleurs, de ceux qui travaillent tôt le matin, encore une fois. Et il leur disait vous allez voir, on va faire un petit geste pour le diesel. On aurait dit une dame patronesse au 19e, on se serait cru dans un roman de Zola qui ouvrait son petit réticule pour jeter quelques pièces à ses œuvres. Et ça m'a énormément frappée. Alors, il a pas honnêtement, ce qui lui manque fortement, et je crois que ça inquiète sourdement les Français, c'est une vision. Alors pour sa défense, il n'est pas le seul, hein. Il a un héritage de politiques qui l'ont précédé, de gouvernants en France qui n'ont pas eu de vision, qui ont marché à la godille et aux doigts mouillés. Hein, c'est d'ailleurs l'expression qui est utilisée par un ancien patron d'EDF à propos du nucléaire. Et de ce fait, il continue. Vous voyez, on voudrait un pilote dans l'avion, on a un steward ou une hôtesse de l'air qui essaie de d'aménager notre confort pendant la chute, mais c'est pas vraiment ça qu'on voudrait, c'est vraiment une vision. Et en cela, je pense qu'il est extrêmement inquiétant. Alors, vous parliez des retraites. Moi, je trouve qu'il y a un angle qui a été absolument occulté, ça repose sur un truisme, c'est que pour avoir envie de ne pas travailler trop longtemps, il faut travailler. Et finalement, c'est toujours sur les mêmes vaches à lait, les mêmes bonnes poires qu'on tape. Et ces Français qui travaillent et qui se disent, mais en même temps, il y a de la fraude sociale, il y a des gens qui profitent du système, des assistés, pourquoi encore nous? Et je crois que ce sujet-là est vraiment l'angle mort d'Emmanuel Macron.
Bon, le gouvernement promet quand même un projet de loi sur l'immigration. Ça veut dire, Yvan, qu'il entend certaines inquiétudes.
Le sujet de l'immigration, s'il avait à illustrer effectivement la déconnexion des élites, on prendrait le sujet de l'immigration. Encore dans Le Monde, très récemment, il y avait une pétition signée par 400 scientifiques,
chercheurs,
présentés comme étant scientifiques, scientifiques,
pardonnez-moi,
scientifiques, qui assuraient qu'il n'y avait pas de submersion migratoire et donc que ce que l'on voyait n'était pas ce que l'on voyait et que l'on était un petit peu des sortes d'abrutis à se laisser emballer par des propos complotistes, parce que c'était un petit peu ça ce que voulait dire cette pétition là. Et donc on voit que Emmanuel Macron est dans cette filiation. Alors certes, c'est son projet de loi qui va être discuté très prochainement. Va faire en sorte qu'il y aura des délais raccourcis, etc. Et donc cela pourra améliorer à la marge, très à la marge, l'efficacité peut-être des retours aux frontières. Et encore, je n'en suis pas si sûr. Mais enfin, on connaît maintenant le projet. Il consiste effectivement à faire en sorte de régulariser des clandestins qui répondent à des emplois sous tension. Et bien, Macron n'ira jamais beaucoup plus loin, n'ira jamais plus loin que ceci-là, parce que Macron s'est plié à l'ode à l'immigration. Il ne faut pas oublier que Macron est celui qui a signé le pacte de Marrakech en 2019. Et le pacte de Marrakech en 2019 était précisément pour faire comprendre que l'immigration de peuplement était une immigration nécessaire à la vieille Europe et qu'il n'y avait à la limite plus de différence à faire entre le citoyen et l'étranger. Je vous en donne quelques phrases qui ont été signées par Emmanuel Macron. Nous reconnaissons qu'à l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. Il faut optimiser ces effets positifs et donner aux migrants les moyens de devenir des membres à part entière de nos sociétés. Donc il s'est engagé sur ce pacte-là, même si on dit que ce pacte n'engage rien. Si, ce pacte engage moralement, naturellement. Et puis d'autre part, s'il y avait un autre élément à donner pour montrer qu'Emmanuel Macron s'est converti à l'immigrationnisme naturellement et que son projet de loi est un projet de loi qui va feindre une rigueur, c'est qu'il a nommé ces jours derniers, et je l'avais d'ailleurs annoncé dans la précédente émission, M. Thuot au Conseil d'État, à la section intérieure du Conseil d'État, c'est-à-dire que M. Thuot sera celui du Conseil d'État qui aura à gérer les grandes questions d'immigration. Or, M. Thuot a été connu en 2013 pour avoir signé le rapport Thuot, qui faisait l'éloge de l'inclusion. L'éloge de l'inclusion, ça veut dire l'éloge de la société multiculturelle, c'est-à-dire l'éloge d'une société qui abandonne tous les processus d'assimilation, mais également les processus d'intégration, et au profit d'une société métissée, d'une société qui ne ferait plus de différence non plus entre les étrangers et les citoyens, et avec des phrases du genre rejetant la célébration du passé révolu d'une France chevrotante et confie dans des traditions imaginaires, ou moquant la frénétique invocation du drapeau français, etc., etc. Donc on voit bien quelle est l'idéologie qui imprègne en tout cas le pouvoir en place et Emmanuel Macron par ses signatures et par ses nominations. Et donc je ne crois pas un quart de seconde, naturellement, que ce projet de loi sur l'immigration changera quoi que ce soit à sa politique, naturellement. Donc encore une fois, alors que l'immigration est vraiment le point d'ancrage d'une grande partie de l'angoisse existentielle des Français, on voit bien que le président de la République n'en a cure et qu'il voit dans cette angoisse-là simplement des sentiments populistes ou des sentiments nauséabonds qui n'ont pas lieu d'être corrigés.
Et sur l'insécurité ?
Ah ben sur l'insécurité, c'est la même chose. On pourrait également faire la même démonstration. C'est-à-dire qu'en effet, sur l'insécurité, il y a un discours qui est de reconnaître qu'il y a maintenant une insécurité. Darmanin prend quelques mesures, va sur le terrain pour faire en sorte de montrer qu'il y a une insécurité. Il a même fait le lien entre l'insécurité et l'immigration. Il y a encore quelque temps, il disait « je suis à 100 000 lieues de faire le lien entre l'immigration et l'insécurité ». Mais on voit que là aussi, le pouvoir a du mal à se confronter aux réalités. On a vu par exemple qu'à Nantes, l'insécurité est telle aujourd'hui. Nantes, qui est une ville qui a été saccagée précisément par une politique d'immigration impensée, menée par notamment Jean-Marc Ayrault depuis les années 90. Et on a vu qu'il y avait deux bonnes sœurs qui également devaient quitter leur église. Ça se passe à Sainte-Croix, dans le quartier du Bouffay, parce qu'elles ne peuvent plus répondre à elles seules à une insécurité qui devient insupportable à tous les riverains et maintenant et qui prend pour cible une église catholique. Donc on voit bien que ce problème de l'insécurité est un problème majeur. Or, qu'est-ce que l'on apprend aujourd'hui? C'est ce que l'on apprend. Le président de la République lui-même a choisi de faire de la Seine-Saint-Denis, qui est vraiment le terreau même de l'insécurité. La Seine-Saint-Denis, c'est 130 nationalités, 600 000 étrangers, 37 agressions par jour. Et c'est en Seine-Saint-Denis que Macron a comparé à la Californie, la mer en moins. C'est en Seine-Saint-Denis que les Jeux Olympiques, les prochains Olympiques seront accueillis, en tout cas à travers un village olympique avec 17 000 sportifs notamment, et avec une partie des prestations sportives qui seront mises. Donc dans ce terreau de l'insécurité où on a vu que lors de la coupe,
la finale de la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, voilà, je suis pas très fort en foot. En mai dernier, Darmanin, le Stade de France avait été pris pour cible par des voyous des cités de Seine-Saint-Denis, et Darmanin n'avait pas voulu commenter ces faits-là qui étaient visibles à l'œil nu et avait accusé les supporters espagnols et anglais, on se souvient de ce scandale-là, donc avec un déni officiel. Et donc, c'est donc dans ce terreau de l'insécurité que Emmanuel Macron a choisi effectivement d'implanter la France comme symbole d'une sécurité avec une perspective d'une tolérance zéro, d'une insécurité zéro qui, de la part de tous les responsables que vous interrogez, paraît insupportable, paraît inatteignable. Et je vais simplement citer Patrick Caram, qui est le vice-président de la région Île-de-France et qui disait dans le Figaro très récemment que les bandes et les vendeurs de drogue vont revenir en force et que l'on risque des vagues d'agression, avec précisément cet étalement de richesse qui sera le lot de cette ouverture, naturellement, à un spectacle mondial qui attirera des milliards de téléspectateurs. Donc je pense que là encore, l'aveuglement est tel. Et là c'est du coup l'aveuglement du président de la République devient terriblement dangereux, parce que cela va faire courir des risques non seulement à tous les policiers qui seront naturellement mobilisés, mais également à tous les supporters qui auront à se confronter à une société en ébullition en Seine-Saint-Denis, parce que cette société de Seine-Saint-Denis, en effet, est une société qui rejette, pour une partie d'entre elles en tout cas, l'autorité de l'État.
Autre thématique, et là vous voulez qu'on parle du camp du bien. Est-il toujours exemplaire? Et vous prenez l'exemple de l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a vu dans l'affaire Palmade une haine des riches. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Écoutez, j'ai pris cet exemple parce que j'ai trouvé que c'était que Roselyne Bachelot se caricaturait dans le fond dans son rôle de bourgeoise progressiste méprisant le petit peuple. C'était vraiment une sorte de Madame Verdurin. Et j'ai trouvé que cela reflétait assez bien quelle était cette gauche morale, moralisatrice, cette gauche du camp du bien qui se réfugie dans la caste et qui se bouche le nez au point même, et qui désigne tous ceux qui protestent comme étant des populistes, voire des racistes, parce qu'elle a dit également que ceux-là qui avaient protesté contre l'attitude de Palmade étaient également des racistes, parce que deux de ses amis portaient des prénoms visiblement non français. Donc c'est elle qui en a déduit que les critiques qui pouvaient être faites sur ce petit groupe-là étaient visées, et les riches, et la condition de riche de Palmade, et effectivement étaient issues d'antiracisme. Donc on voit que il y a eu une incapacité de la part de Mme Bachelot, mais plus généralement de la part du camp du bien, à comprendre quelle était la grande indignation de cette France qui a découvert, non pas que Palmade était riche, je pense que les Français se foutent éperdument de savoir si Palmade était riche ou pas, mais de savoir qu'il y avait toute une famille qui avait été bousillée par le comportement complètement irrationnel et de cet humoriste qui faisait partie lui aussi du camp du bien, c'est-à-dire de ce camp qui donne des leçons à la terre entière et dont on s'aperçoit quand on gratte un peu qu'ils vivent des vies qui leur appartiennent naturellement, mais avec une sorte d'omerta et avec une sorte de protection, si je puis dire, à laquelle Mme Bachelot a participé, afin de ne pas aller au-delà des critiques admissibles, sans doute, à ses yeux, sur le comportement de Pierre Palmade, alors que, naturellement, le comportement de Pierre Palmade méritait toutes ces indignations-là. Donc, je trouve que ça a été effectivement très révélateur de cette grande hypocrisie du camp du bien, de ces faux gentils qui donnent des leçons à la terre entière. Vous voyez Pape Ndiaye, par exemple, également, qui met ses enfants dans des écoles privées très chères, alors qu'il prône l'ouverture de l'école républicaine à la diversité, etc. Donc on pourrait faire l'inventaire de toute cette grande hypocrisie, et cela me paraît effectivement navrant.
Gabriel Cluzel, sur ce camp du bien, est-ce que vous aussi vous considérez que c'est une tromperie?
Évidemment. Alors reprenons l'affaire Palmade. C'est quand même hallucinant que de dénier le droit aux Français de s'émouvoir des turpitudes d'un individu qui a conduit à la mort d'un bébé in utero. Enfin, pardon, mais c'est pas la haine du riche. C'est simplement une indignation tout à fait légitime. Et s'ils s'en sont indignés, c'est parce que ça leur a semblé assez révélateur d'un climat. Et au lieu d'analyser ce climat et de se demander ce qui ne va pas dans notre société, eh bien, tout de suite, on a dit, ah oui, ben voilà, c'est soit ils étaient racistes, soit c'était la haine du riche. C'est quand même assez gonflé. Hein. Je crois, au contraire, qu'il faudrait être très vigilant sur les signaux que nous envoie cette indignation. Je vous renvoie au film Que la fête commence, un très vieux film avec Jean Rochefort, où on voit, juste avant la Révolution, toute une société dépravée, notamment Jean Rochefort sur la fin part avec son carrosse et tue dans une charrette de foin un petit enfant, et on voit la sœur du petit enfant qui met le feu à cette charrette, et ce sont les prémices de la Révolution. Je crois qu'il faut faire attention à tous ces signaux, et le camp du bien, il est tellement imbu de lui, tellement persuadé qu'il a raison, tellement persuadé qu'il est le bien, qu'il ne voit pas tous ces signaux, il n'a pas l'humilité d'analyser tout cela, et ça me paraît en ce sens extrêmement dangereux. Et le camp du bien peut tous autoriser. Moi, j'ai été très frappée de voir qu'aujourd'hui, par exemple, je crois que c'était aujourd'hui, il y a une tribune dans le JDD pour soutenir Adèle Haenel, qui est l'actrice qui a tenu des propos quand même assez hallucinants. Moi, j'ai pas l'habitude de défendre outrageusement ce gouvernement, mais enfin, dire que le gouvernement est composé de violeurs et que c'est même un l'objet du casting, enfin, c'est un des points qui sert au casting, c'est quand même proprement hallucinant. Dans le cadre d'une université, celle de Paris 8, eh bien, le ministre de l'Enseignement n'a pas réagi, la direction de Paris 8 n'a pas réagi. Aujourd'hui, cette actrice a toute une tribune de gens qui viennent la soutenir, comme Annie Ernaux et autres célébrités du même acabit, et c'est proprement hallucinant. Le camp du bien a toujours raison, jamais il n'est dans l'outrance, jamais il ne présente d'excuses. C'est quand même assez confondant.
Je vous en veux parce que je n'avais pas vu ni lu cette tribune et j'aurais pu commencer avec cet après-midi. Yvan Rioufol, bon, il peut quand même y avoir des gens sincères dans ce...
Non, bien sûr, il y a des gens sincères, mais effectivement, il y a quand même même parfois des salopards. Et très rapidement, parce que je vois qu'on a
Allez-y, on prendra une minute de plus.
Ah bon, très bien. Et dans la presse, très récemment, la presse a révélé deux scandales de la charity business, c'est-à-dire effectivement de ce business qui est fait sur les bons sentiments. Les bons sentiments, c'est parfait, mais on ne fait pas de bons sentiments ni en littérature, ni en politique, ni même dans les affaires. Et là, nous avons appris, par exemple, qu'il y a l'association Equalis qui vient en aide aux sans-abri et aux migrants, qui a été épinglée pour sa gestion des fonds publics. Elle reçoit 83 millions de subventions, dont 14 millions pour l'accueil des demandeurs. Et on a appris, des demandeurs d'asile, pardon, et on a appris qu'en 2020, son directeur, qui a été licencié depuis, percevait de plus de 200 000 euros par an, bénéficiait naturellement d'un logement de fonction, d'une voiture de fonction, avait des frais de 5 000 euros par mois, une carte de crédit, et que cette association avait 29 directeurs avec voiture et carte de crédit très généreuses, et que l'autre association, l'association Viltaïs, qui a été épinglée par la Cour des comptes de l'Allier, Viltaïs s'est fait connaître parce que c'est elle qui avait incité au repeuplement du village de Calac en Ille-et-Vilaine, qui est ce projet qui avait été refusé par les habitants eux-mêmes. Et on a appris que Viltaïs, elle, avait un parc automobile de 136 voitures, dont 7 BMW pour la direction et ses adjoints. Et donc, voilà, c'est tout simplement pour vous dire que cette tartufferie devient absolument horripilante et que parmi les nombreuses motivations, les nombreuses causes qu'il y aurait à vouloir se révolter effectivement de la situation actuelle, la cause effectivement de l'hypocrisie de ces donneurs de leçons en est une supplémentaire.
La publicité, on revient dans un instant, on va parler du Covid. On est quasiment, vous imaginez, c'était le 16 mars 2020, si je ne m'abuse, le début du premier confinement. 3 ans quasiment jour pour jour. Donc là, on va faire le bilan avec M. Chaillot, statisticien, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. A tout de suite sur CNews pour la suite de Face à Rioufol. La deuxième partie de Face à Rioufol, toujours avec Yvan Rioufol, bien sûr, avec Gabriel Cluzel, nous a rejoint sur le plateau Pierre Chaillot. Merci d'être avec nous, Pierre Chaillot. Vous êtes statisticien, vous avez été formé à l'INSEE, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Pourquoi vous avez invité Pierre Chaillot, cher Yvan Rioufol ?
Quand j'ai reçu son livre il y a 2 mois et que je l'ai lu, j'ai trouvé que ces révélations étaient vraiment étonnantes. Et je me suis dit naturellement que ça allait susciter un débat et je voulais attendre un peu pour voir... pour trier un peu le bon grain de livret. Et j'ai été stupéfait de voir qu'en fait, c'est une véritable omerta qui s'est plaquée sur votre livre. Alors certes, vous avez été invité sur CNews, Pascal Praud vous a invité, vous avez été invité sur une ou deux radios périphériques, si je puis dire, mais je suis étonné de voir qu'une sorte de censure, en tout cas la censure du silence, a accueilli votre livre, alors que votre livre... celui d'un statisticien, et de dire que cette crise du Covid a été très largement exagérée pour aller vite et vous en donner les chiffres et vous expliquer à partir du moment où les chiffres ne trompent pas, vous donner tous les chiffres et j'aurais pu penser que cette démonstration aurait suscité ou des contradictions ou des dénégations. Mais en fait, vous n'avez rien, confirmez-le-moi, vous n'avez rien eu de contradictoire dans les débats et ni même de négation de ce que vous pouvez avancer.
Non, je n'ai absolument aucune remarque, aucune critique. Il y a très récemment l'Express qui a fini par se fendre d'un article pour expliquer qu'il ne voulait pas parler de mon livre, puisque c'était un livre forcément complotiste, puisqu'il ne disait pas la même chose que les autres, et donc il expliquait que c'était la raison pour laquelle il ne fallait pas en parler.
Mais l'Express avait lu votre livre malgré tout, ou même pas?
La journaliste de l'Express avait lu mon livre, m'a envoyé une série de questions à laquelle j'ai répondu dans le détail, et n'a pas repris le moindre mot de mes réponses d'ailleurs, donc je me suis permis d'une réponse qui a été publiée ensuite par François pour montrer les réponses que j'avais faites à la journaliste, et qui n'avaient pas été reprises. Donc oui, c'est bien ça qui se passe. J'ai aucune contradiction de mes propos, alors que pourtant le livre, ça fait maintenant 6 semaines qu'il est dans le top des ventes, donc des livres les plus vendus en France de la catégorie des essais, publié d'ailleurs par l'Express, hein, donc qui pour la première fois depuis 6 semaines commentait cet état de fait.
Et donc votre livre est en effet de démonter, si je puis dire, le récit officiel qui était de dramatiser cette épidémie, de dramatiser ses conséquences et de dramatiser même les réponses qui avaient été données par le président de la République lui-même avec une avalanche de milliards qui ont été déversés afin d'éteindre la crainte des Français. Et tout, si l'on vous lit, on vous dit que tout ceci était inutile. Et donc vous nous dites que cette crise du Covid n'était pas aussi grave qu'elle a été présentée. Comment peut-on la mesurer? Quels sont les chiffres que vous avancez et qui pourraient être contestés, qui ne le sont pas?
Tout ce qu'il y a dans mon livre, ce sont les chiffres officiels et ça utilise des rapports officiels, donc c'est difficile de contester puisque tout est sourcé. Et donc ce sont les méthodes habituelles. Donc si on veut pouvoir dire qu'il y a une épidémie grave et qu'il s'est passé quelque chose, il faut qu'il y ait des morts. Ça, c'est la première chose, normalement, à regarder. Il se trouve que donc, quand on télécharge les chiffres officiels de décès et que l'on fait les calculs habituels, on se rend compte qu'il n'y a d'hécatombe nulle part, ni en France, ni en Europe.
On annonce quand même 150 000 morts en France durant cette épidémie.
Alors ça, c'est autre chose, c'est un deuxième point, c'est-à-dire qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid? Ça, c'est autre chose. Mais on peut compter tous les morts Covid qu'on veut. Si on veut dire qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, qu'il faut qu'il y ait plus de morts que d'habitude et de manière significative. Et ça n'est pas le cas. Ce qui a été fait, c'est qu'on a comparé les décès qu'il y a eu en 2020 avec ceux de l'année précédente sans prendre de précautions, alors que tous les ans en France, le nombre de décès augmente tout simplement parce que la population vieillit. Il y a ce qu'on appelle les baby boomers. Et donc ça fait 10 ans que quasiment tous les ans, on bat le record du nombre de décès. Et donc on ne fait pas ça, on ne compare jamais les décès d'une année sur l'autre sans prendre en compte la population, la taille de la population et l'âge des gens.
Oui.
Et donc il y a un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge qui est utilisé, c'est le calcul officiel que vous pouvez trouver sur l'OMS, sur Eurostat, sur les Statistiques Statistiques Canada. Et c'est comme ça que l'on compare les décès d'une année sur l'autre. Et si on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas
de surmortalité. Et alors donc cela donne combien de décès en plus, en moins, ou en 2020, 2021, 2022?
Eh bien, par exemple, en 2020, il y a exactement le même nombre de décès standardisés que par rapport à l'année 2015. Il n'y en a pas plus. Donc, c'est-à-dire que si on se dit que l'année 2015, ce n'est pas le Moyen-Âge et qu'il ne s'est pas passé une grande guerre en France, il n'y a pas de surmortalité en France. C'est bien ce que je montre. Et donc, on ne compare pas l'année 2020 à une seule année. Par exemple, en ne comparant que à l'année 2019, on regarde par rapport à un ensemble d'années parce qu'il peut se passer des voies des hivers un peu rudes ou des canicules. Et donc, si on regarde de manière objective l'année 2020 dans son ensemble avec des années précédentes, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'alarmant en France en 2020, ni dans aucun des pays d'Europe sur lesquels on a des données. Et ça, c'est le premier chapitre de mon livre. Et je pense qu'il faut en terminer avec cette histoire où on fait croire aux gens qu'il s'est passé une hécatombe quelque part. Il ne s'est passé d'hécatombe nulle part où l'on dispose de données de décès.
Enfin, tous les pays du monde, si je puis dire, en tout cas une grande partie des pays du monde, ont relaté cette grande panique universelle presque en disant que c'était un virus qui tuait énormément de monde. Et on a vu même des scènes, souvenez-vous, en Italie, au tout début du Covid, où l'on voyait malgré tout des corps dans des couloirs d'hôpitaux. Donc on n'a pas rêvé d'avoir vu ces scènes-là.
On n'a pas rêvé, on les a vus à la télé. Il y a le deuxième chapitre de mon livre, d'ailleurs, s'intéresse à la saturation hospitalière. Puisque moi, j'étais persuadé de ce que je voyais à la télé, qu'il y avait bien une saturation hospitalière en France. Et j'en étais persuadé jusqu'à avoir le rapport de la TIH, qui est l'Agence technique de l'information hospitalière, qui a sorti en octobre 2021 un rapport pour nous expliquer que sur l'année 2020, le Covid-19, c'est 2% de l'activité hospitalière.
Ça, ce sont les chiffres officiels. Hein. 2%, chiffres officiels. Oui. Je me souviens qu'on avait effectivement donné ce chiffre. Oui.
Et que pendant les périodes de confinement, on a les caméras qui se déplacent pour nous montrer justement les hôpitaux qui sont saturés. Les hôpitaux sont à moitié vides. Les hôpitaux sont à 50% vides. Donc, ce qui s'est passé, c'est que...
Je vous interromps là, parce qu'on se souvient des images où l'on voyait des trains affrétés afin de faire venir des malades dans d'autres départements, etc., parce que les hôpitaux étaient soi-disant saturés sur place. Vous nous dites que ce théâtre-là était un théâtre faux et qu'il n'y avait pas la saturation qui était avancée par les pouvoirs publics. C'est ce que vous nous dites.
Si on met dans son contexte, il se trouve que ça fait maintenant plus de 20 ans que la politique de l'État, c'est quand même de baisser le nombre de lits à l'hôpital et que de manière assez régulière, quand il y a des hivers un peu rudes, il y a des hôpitaux qui sont saturés pendant les périodes dites épidémiques, quand il fait un peu froid. Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que quand on est en 2020, ça fait presque un an qu'on a des services d'urgence un peu partout en France qui sont en grève parce qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins des malades en permanence et des malades d'infections respiratoires, notamment pendant les périodes épidémiques. Donc il ne se passe rien de nouveau. Donc l'hôpital est saturé en permanence en France parce que c'est la stratégie, c'est une stratégie financière qui a été mise en place où il s'agit de ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire d'avoir en permanence des lits qui soient à 100% occupés par des malades. Donc quand il y a des tensions, eh bien, fatalement ça déborde et c'est en permanence qu'on envoie des malades ailleurs. Donc ça c'est un classique. Ce qui s'est passé en début de cette histoire, c'est qu'on a mis en février le plan Orsan-Reb qui a été mis en place et qui a dit en France, il va y avoir une épidémie très grave Covid-19 et il n'y a que 38 hôpitaux qui seront habilités à recevoir du Covid. En France, il y a 1500 établissements hospitaliers. En France, il y a 3 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques en permanence. Si on commence à leur faire peur à tous ces gens-là et qu'on leur dit qu'il y a une épidémie grave qui arrive et qu'on concentre une maladie mal connue sur laquelle les symptômes peuvent être tout et n'importe quoi sur seulement 35 hôpitaux, c'est normal qu'on fasse de la saturation.
D'accord.
Ça a tellement saturé qu'au bout d'une semaine, ils ont abandonné, parce que tout était saturé dans ces hôpitaux-là, et on est passé à 108, et puis après, on est passé à tous les hôpitaux en France, mais en disant qu'il fallait mettre dans des couloirs spéciaux les gens. Donc ce qu'on apprend avec le rapport de la TIH, c'est qu'il n'y a jamais eu saturation hospitalière au niveau français, absolument à aucun moment, et même à aucun niveau régional. En revanche, il y a pu y avoir des saturations particulières liées au protocole qui a été mis en place. Mais ça, c'est très différent. Donc ce n'est pas un problème d'un virus qui est plus grave que d'habitude, c'est un problème d'organisation où les gens paniquent.
Gabriel Cluzel.
Vous nous développez une explication franco-française, mais il se trouve que le problème du Covid, il va au-delà de nos frontières, on l'a bien vu, il est international. Alors pourquoi tous les pays auraient réagi collectivement de la même façon, avec du reste des bords politiques divers et variés, il y a quand même eu cette réaction commune face à cette épidémie. L'explication ne peut pas être seulement franco-française.
Non, alors il y a eu des pays qui ont réagi de manière différente les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on le voit sur ces périodes-là, dans les pays qui ont paniqué, on a tendance à avoir des bosses de mortalité plus importantes que dans les pays qui ne font rien. Et on a des pays qui nous sont voisins, comme l'Allemagne, qui ne fait pas de confinement du tout pendant la période de mars-avril 2020, qui ne réagit pas en lançant la panique, qui réagit assez calmement et qui n'a aucune bosse de mortalité sur la période. Tout simplement, c'est parce qu'elle n'abandonne pas les gens en créant du n'importe quoi. Et donc on peut bien se référer à nos voisins, à ceux qui ont paniqué, comme les Italiens notamment, très précocement, et qui ont en effet confiné les gens, qui ont dit que c'était une maladie grave et qui sont mis à faire un peu n'importe quoi, aux Français, aux Belges, mais il y a d'autres contre-exemples, comme notamment l'Allemagne et la Norvège, qui n'ont pas fait ça du tout et qui ont des résultats bien meilleurs que nous.
Mais d'où est venue, est-ce que vous avez pu remonter la filière, si je puis dire, de cette fabrique de la peur? D'où est venue initialement cette panique-là? Qui l'a insufflée au départ?
Bien, dans mon livre, je parle notamment de... Je me remets en question l'histoire initiale avec le virus chinois qui est retrouvé en Chine. Si on reprend les chiffres dans l'ordre, ce qui s'est passé, on a d'abord une quarantaine de malades en Chine qui souffrent d'une infection respiratoire qui est dite atypique. On est sur une pneumopathie, on est à Wuhan, ce qui est un des territoires du monde qui est le plus pollué. On est à un moment où il fait très froid, donc c'est-à-dire un moment où il y a le plus de particules fines, des gens qui respirent mal. Et il se trouve qu'on se met à se paniquer à ce moment-là pour 40 malades, ce qui est assez étrange. Et la seule explication qui se trouve sur quelque chose qui est pourtant à cet endroit-là parfaitement habituel, c'est de dire que c'est un nouveau méchant virus qui arrive. Et dans ces cas-là, et là on lance la batterie des laboratoires qui se mettent à étudier ce qu'il y a dans les poumons des malades et qui finissent par diverses techniques, trouver une séquence en disant voici un nouveau SARS et c'est ça qui va lancer la panique mondiale. Et l'OMS, dès que la séquence du prétendu virus qui a l'air de correspondre à ce qu'on est en train de dire est lancée, il y a l'OMS qui lance une panique en disant regardez, c'est un nouveau virus tueur qu'on va appeler SARS-CoV-2 qui ressemble au SARS-1. Et donc c'est de là que démarre la panique, exactement comme ça s'est passé pour H1N1 il y a 10 ans, où sur certaines traces et certaines annonces de l'OMS et de laboratoires, on dit qu'il va y avoir une pandémie mondiale sur la base d'un virus, cette fois-ci grippal. Cette fois-ci, c'est un coronavirus.
Mais c'est une panique de bonne foi ou est-ce que dès le départ, il y avait une volonté de désinformer dans le faux ou en tout cas d'instiller une peur artificielle afin de terroriser une partie de la population, ce qui a été fait d'ailleurs.
Alors ça, on dit en statistique, les faits n'expliquent pas les causes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ceux qui ont mis le plus d'huile sur le feu sur la panique, ce sont ceux qui ont été les plus gagnants au final, à savoir les laboratoires pharmaceutiques. Les politiques, évidemment, ont tout intérêt à ce que la population soit dans un état de sidération et de peur de façon à se rendre le plus indispensable possible. C'est assez vieux comme le monde, le fait d'avoir des crises de façon à se rendre indispensable. Donc il y a une grande partie quand même des instigateurs qui ont été gagnants de la crise.
Alors, mais, oui, pardon, Gabriel.
Non, je m'étonne simplement si vos chiffres sont officiels, comme vous le dites. Pourquoi êtes-vous le seul à vous en saisir et pourquoi d'autres que vous ne le font pas? On ne va pas imaginer que vous soyez le seul chevalier blanc à faire cela.
Non, il y a énormément de scientifiques. D'ailleurs, je n'écris pas tout seul le livre. On est une dizaine à participer au livre, à étudier les chiffres et à arriver aux mêmes conclusions. Et il y a tout un tas de scientifiques avec qui j'ai travaillé, internationaux d'ailleurs, qui sont arrivés aux mêmes conclusions dans leur pays. Il y a une différence entre dire que je suis seul ou bien plutôt que je suis le premier à qui on pose la question sur une antenne. Mais il y a de nombreuses personnes, en tout cas.
Pour que je comprenne bien, vous êtes en train de nous dire que le plan anti-Covid qui a été décidé par le gouvernement, par Emmanuel Macron, afin de pallier les manques à gagner du confinement, est un plan qui a coûté des milliards aux Français, est un plan qui était inutile en fonction des données que vous nous proposez.
Il était inutile sur le plan de la santé, il était certainement utile sur un plan politique. C'est-à-dire qu'il y avait une crise qui était politique, avec des gens qui paniquaient, beaucoup de gens qui réclamaient le fait de se faire protéger, et le gouvernement a répondu à cette crise-là. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de sanitaire. Et quand on regarde les chiffres a posteriori, sur le nombre de morts, sur le nombre de malades, là on se rend compte que non, la crise était beaucoup plus... En tout cas, elle est invisible statistiquement.
Permettez-moi de vous prier juste, puisque vous avez parlé des chiffres, par exemple. Moi, vraiment, en toute transparence, quand vous regardez l'INSEE 2020, une hausse des décès inédite depuis 1970. Oui. En raison de l'épidémie de Covid, la mortalité a été exceptionnelle en 2020, avec près de 669 000 décès, toutes causes confondues, soit 56 000 décès de plus qu'en 2019, plus 9%. Oui. Ça, vous contredisez donc l'analyse et l'appréciation de l'INSEE, c'est ça?
J'utilise exactement les mêmes chiffres. Ce que ne fait pas l'INSEE dans cet article-là, c'est de prendre en considération l'augmentation de l'âge des gens et le fait que les baby-boomers arrivent à des âges auxquels on décède. Et ils ne font que la comparaison que par rapport à 2019 et en chiffres bruts. Là où je vous le redis, il faut regarder la taille de la population et l'âge des gens avant de dire s'il s'est passé quelque chose. Et en l'occurrence, le taux de mortalité standardisé 2020, je le redis, c'est le même que l'année de 2015. Vous avez entendu parler de l'espérance de vie, qui est un autre calcul de mortalité standardisée, est la même en 2020 qu'en 2015, c'est-à-dire qu'en 2020 et en 2015, les Français sont morts exactement pareil.
À propos de la vaccination, est-ce que vous avez des chiffres sur les effets indésirables qui ont été causés par cette vaccination? Est-ce qu'il est possible d'avoir une évaluation de ces effets-là? Et est-ce que même il est possible d'avoir peut-être une évaluation des morts qui auraient été causées éventuellement par cette vaccination?
Ça, c'est extrêmement difficile. Dans le livre, je passe un certain temps à regarder les évolutions de décès semaine après semaine par tranche d'âge et je mets en face les nombres de vaccins qui ont été distribués à ces populations-là, partout en Europe, par tranche d'âge. Et je remarque qu'il y a une corrélation qui marche très bien entre des doses distribuées et une surmortalité pour les tranches d'âge concernées. Donc ça concerne des jeunes, mais aussi des anciens. Et donc ça, c'est un indice. C'est-à-dire que pendant qu'on vaccine les gens, on a trop de morts sur les populations qu'on est en train de vacciner. En parallèle de ça, on a aussi une pharmacovigilance, c'est-à-dire des gens qui déclarent des effets indésirables graves auprès des autorités et même avec des décès. Donc des gens qui déclarent des décès. Donc ça, on ne peut jamais savoir si c'est bien le vaccin qui a tué la personne, mais ça donne un indice. Et selon l'industrie pharmaceutique, il n'y a que 10% maximum des effets indésirables qui sont déclarés, donc il faudrait multiplier les chiffres par 10. Donc on a une pharmacovigilance qui est extrêmement grave et extrêmement importante et qui est un record jamais connu. Au moment où on vaccine les gens,
la pharmacovigilance, c'est-à-dire que tous les effets indésirables sont bien mesurés et sont bien répertoriés dans cette pharmacovigilance. Il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de déni.
C'est une pharmacovigilance passive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont eu des effets indésirables, mais il y en a très très peu qui déclarent, parce que c'est extrêmement fastidieux, ça prend 2 heures, et qu'il n'y a jamais personne qui va voir les gens pour leur demander de déclarer. Donc c'est une démarche qui est personnelle, qui est extrêmement lourde et fastidieuse, qui fait que quasiment personne ne le fait. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il y a moins, l'industrie pharmaceutique considère qu'il y a moins de 10% des effets.
Donc on ne peut pas savoir s'il y a eu des effets indésirables plus que la moyenne.
Il faut considérer, ces vaccins-là sont un record des effets indésirables, si on les compare par rapport aux autres vaccins, il n'y en a jamais eu autant de déclarés, donc ça il se passe bien quelque chose de spécifique. Et a priori, même les chiffres qui sont proposés, l'industrie dit qu'il faudrait multiplier par 10. Donc pendant qu'on vaccine les gens, on a des records de pharmacovigilance avec des gens qui se plaignent qu'ils ont des effets indésirables graves, des morts qui remontent en pharmacovigilance post-vaccinaux. Et on a sur ces périodes-là aussi des petites hausses de mortalité décelables statistiquement des populations qu'on est en train de vacciner. Donc ça, c'est un indice qu'il se passe quelque chose. Ce sont des corrélations statistiques. Ce que l'on demande, et on est plusieurs à le demander à l'État, c'est de faire un grand bilan de tous les décès qui ont eu lieu depuis 3 ans et de regarder qui était vacciné, qui n'était pas vacciné dans ces statistiques-là.
Là, on ne le sait pas pour l'instant.
Ça, ils refusent de le communiquer.
De le communiquer ou on ne le sait pas
On pourrait le savoir. Tout cela, c'est disponible dans des bases de données auprès du ministère de la Santé qui s'appelle le SNDS. On a fait une demande avec Laurent Toubiana auprès de la CADA pour avoir accès à ces données qui nous a été refusées. La ministre a refusé de nous les donner en disant dans la même phrase qu'à la fois ces statistiques n'existaient pas mais que tout le monde pouvait y accéder quand même. Donc, les deux choses sont fausses. On demande à avoir ça de façon à vérifier 2 choses. Alors s'il y a une pandémie mortelle qui circule avec un vaccin surefficace, normalement les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés. Point. Ça, c'est la première chose à vérifier. Si on trouve l'inverse, il se passe quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder s'il y a un lien ou non entre la date de vaccination et la date de décès. Si la vaccination, c'est sûr et efficace, eh bien vous aurez autant de décès le lendemain de la vaccination que 3 jours après, une semaine ou 1 an après. Donc il faut regarder s'il y a un lien statistique. Si vous voyez un lien statistique, c'est que vous avez un problème. C'est-à-dire que les statistiques vous disent qu'il y a bien un lien entre les deux événements. Et donc, a priori, il y a assez peu de chances qu'on meure avant de se faire vacciner. Donc le lien serait plutôt un lien de causalité dans l'autre sens.
Mais voilà. Là, ce que vous nous dites, c'est que vous laissez comprendre que le gouvernement paierait, dans le fond, des données qu'il connaît, mais qui viendraient contredire le récit officiel qui a été le sien de dire que les vaccins protégeaient et étaient efficaces. C'est ce que vous laissez entendre ?
Il est possible que personne n'ait absolument regardé, mais c'est quand même assez étonnant quand on vaccine en poussant très très fort une grande partie de la population à le faire, de ne se poser la question à aucun moment de savoir s'il y aurait un lien entre le décès et la vaccination, sachant que ce sont des données accessibles et que personne n'a absolument regardé.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce que vous nous dites là, je veux bien vous croire naturellement, je n'ai aucun élément pour vous contredire, mais si ces chiffres sont accessibles à ce point, pourquoi est-ce qu'en effet, et je reprends la question de Gabriel, pourquoi vous êtes seul ou si peu à vouloir les étaler? Et quand vous les étalez, vous êtes contredit par cette facilité de dire que vous seriez complotiste. Je voudrais comprendre le mécanisme de l'omerta, le mécanisme du déni, qui pour l'instant est assez désagréable dans le fond dans une démocratie, parce qu'on a l'impression qu'on est incapable de débattre d'une donnée fondamentale qui a bouleversé la vie des Français et également d'ailleurs l'économie française.
Il y a des pays qui ont diffusé le statut vaccinal des décédés, notamment l'Écosse, et quand ils se sont rendus compte que les chiffres n'étaient pas en faveur de la vaccination, ils l'ont masqué extrêmement vite. Il y a les Anglais qui ont continué, qui ont pendant assez longtemps proposé ce calcul-là, et qui, au tout début de leur premier chiffre, montraient que, notamment chez les jeunes, les vaccinés mouraient plus que les non-vaccinés. Ce qui était quand même un problème. Il n'y a eu aucune reprise presse sur ce sujet. Mais assez rapidement, ils ont déclaré avoir changé de méthode pour montrer le résultat inverse, sans jamais avoir dit comment est-ce qu'ils avaient changé leur méthode. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Angleterre qui propose ça, où on a des questions à leur poser sur la méthode qu'ils utilisent, puisqu'ils ont donné 2 résultats différents à 2 moments différents. Et puis, il y a un chercheur qui s'appelle le professeur Norman Fenton, qui a montré qu'on voyait d'énormes biais à l'intérieur de ces données. Donc il y a très peu de pays qui se lancent dans l'exercice de donner le statut vaccinal des décédés pour qu'on puisse regarder, puisque les données n'ont pas l'air d'être dans le bon sens. Il n'y a qu'un seul pays qui le fait et les données n'ont pas l'air terribles. Donc il y a en effet un silence des autorités sur ce sujet et qui pose question. Et c'est pour ça que notre but, c'est quand même de poser les questions au maximum et d'essayer d'avoir ces données de façon à savoir.
Et Oui, pardon.
Non, simplement une interrogation. Moi, je suis absolument néophyte, mais vous disiez que l'Allemagne et la Norvège avaient pratiqué une politique différente. Il ne s'agit pas de vaccination, mais par exemple de confinement. Il est assez étonnant qu'aujourd'hui, ces gouvernements qui ont pu être critiqués, je pense notamment à la Norvège, ne mettent pas en valeur des chiffres pour montrer que finalement leur politique a été la bonne. Si vous dites que tout semble leur donner raison, voyez, eux auraient intérêt à abonder dans votre sens.
Ça ne les a pas empêchés ensuite de demander à leur population de se faire vacciner. Donc ça dépend du but qu'il y avait derrière. Évidemment, si on regarde les chiffres de la Suède, mais ce n'est pas les seuls, notamment de l'Allemagne, il n'y a aucune raison de lancer une campagne de vaccination si on n'est pas capable de justifier des morts en plus, même aucune bosse, quoi.
J'aimerais revenir à un moment, parce que c'est mon rôle aussi dans le médiateur de cette discussion et de l'antenne. Vous avez parlé du confinement, vous avez dit qu'il n'y a aucune raison sanitaire, mais des raisons politiques de confiner. C'est une interprétation que vous faites. Quelles sont vos sources, par exemple ?
Pour dire quoi ?
Pour considérer que le confinement était un enjeu politique, seulement politique et non sanitaire.
Ben, s'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de problème dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, ça c'est un autre chapitre du livre où je montre qu'en fait le réseau Sentinelle des médecins qui remontent les malades n'ont à aucun moment depuis le début de cette crise remonté plus de malades que ce qu'ils avaient d'habitude dans les fameuses grippes. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de problème d'hospitalisation, s'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, pour quelle raison faudrait-il confiner les Français ? C'est vraiment la question que je pose. Donc, je ne vois qu'une réponse politique, à savoir une peur qui est exacerbée, des gens qui ont peur de quelque chose, des médias qui jouent le jeu de la peur et du virus tueur en montrant certaines images, et ensuite le politique qui répond en disant « je vais prendre soin de vous d'une manière... »
Est-ce qu'il faut comprendre également que les firmes pharmaceutiques ont en fait imposé, dans le fond, les grandes lignes d'un discours officiel qui a été repris ensuite politiquement ?
Ça, j'en parle un peu dans le dernier chapitre. Maintenant, c'est connu, puisqu'il y a un rapport du Sénat sur le sujet, que la totalité de la politique sanitaire française a été mise en place par des cabinets de conseil. Mais ce n'est pas d'ailleurs la seule politique qui est mise en place par des cabinets de conseil. Même pour ce qui est de l'armement de l'armée, ils interviennent dans beaucoup de choses. Donc ça veut dire que ce sont bien des cabinets privés externes qui notamment gèrent les fonds et les fusions-acquisitions entre laboratoires pharmaceutiques qui vont décider de ce qui est bon pour les Français.
Il y avait un conseil scientifique, si je ne m'abuse, pardonnez-moi.
Le conseil scientifique, oui.
C'est des membres de McKinsey, le conseil scientifique, monsieur ?
Ce ne sont pas des membres de McKinsey. Bon, d'ailleurs, alors... ils ont produit une étude qui a été... Il y a l'étude qui justifie le confinement, d'ailleurs. Il y a le mathématicien Vincent Pavant qui fait un brillant exposé sur le sujet, où ils utilisent des formules qui ne sont pas mathématiquement viables. Il y a des erreurs mathématiques au sein des formules qui sont dans le rapport, qui pourtant sert à justifier le confinement. Et il y a même des courbes qui sont maquillées à l'intérieur. Donc il faut regarder la présentation de Vincent Pavant. On a eu un problème dans cette période avec le conseil scientifique qui fournissait des prétendues études au gouvernement sur lesquelles il n'y avait pas de chercheurs qui pouvaient les regarder ce qu'ils faisaient pour pouvoir les commenter et proposer un débat contradictoire.
Écoutez, c'est terminé. Les téléspectateurs le débat est ouvert. Les téléspectateurs... feront un avis. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir face à vous quelqu'un qui puisse avoir l'expertise et le regard différent.
Il serait bien, effectivement, que l'on se confronte à vos données.
J'étais un peu... Je vous dis en toute transparence, lorsque je vous ai entendu, j'étais un peu surpris. Pas sur les données statistiques, c'est sur l'interprétation après que vous en faites. Merci beaucoup, Yvan. Merci, Gabriel. Cluzel, je rappelle quand même votre ouvrage. Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. L'info se poursuit sur CNews.